voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Ken Loach. Ce soir, l'éclosion d'un cinéaste politique.
Bonsoir Ken Loach.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez raconté vos origines familiales, votre enfance et vos premiers pas dans la réalisation à la BBC. Comment se passe la transition des séries télévisées vers le cinéma?
Well, this is a long story.
Eh bien, c'est une longue histoire.
As I said, we were trying to make contemporary fiction.
Nous essayions de faire de la fiction contemporaine. Les drames à la télé étaient tournés par des grandes caméras électroniques en studio, avec des décors de théâtre et une façon de jouer assez théâtrale.
This was not a good medium.
C'était pas le très bon moyen pour faire de la fiction contemporaine. Nous voulions tourner comme si ça se passait dans la rue, avoir ce sentiment du drame de la rue, des vrais gens dans leur vraie maison, dans leur lieu de travail, dans leur boutique, où que ce soit. Là, vraiment, on se battait contre ça. Comment faire de la fiction contemporaine dans cet environnement technique très ancien. La BBC, dans sa grande sagesse, permettait 3 ou 4 jours de tournage en extérieur. Pour chaque production, on pouvait tourner en 35 mm sur pellicule. Des gens qui quittaient, par exemple, un bâtiment, qui voyageaient dans la rue et puis qui allaient dans un autre bâtiment. Et là, on arrêtait là le 35 mm et on repassait à l'électronique. Donc, avec un petit peu de dialogue dans la rue, des choses qu'on ne pouvait pas faire en studio. Mais bon, il fallait faire la plus grande partie en studio. On était coincés sur un sujet. On n'avait que quelques semaines. On n'avait rien à montrer. J'ai lu un livre. En fait, on m'a donné un livre. Nodon, écrit par Nodon, qui était une série de scénettes de la vie de la classe ouvrière à Battersea. C'était l'époque où les caméras à l'épaule, caméras films, arrivaient sur le marché. Et la nouvelle vague française, dont on a appris beaucoup, utilisait des caméras portées. Et avec un caméraman, avec Tony Imi, un excellent caméraman, et avec l'accord de Tony Garnett, qui était le scénariste avec lequel on travaillait, je me suis dit, je vais tenter de filmer la plus grande partie en extérieur pendant ces 4 jours. Donc en 4 jours, on a couru comme des fous, et on a tourné en film, en 16 mm, 40 minutes montées. Et puis au studio, je devais tourner quelques scènes en studio, mais je ne voulais pas que le style soit complètement différent. Donc on avait les acteurs, les décors, et je leur ai demandé de travailler de façon un peu plus improvisée. Et j'ai dit aux caméramen des studios, avec les caméras électroniques, de filmer à la manière du 16 mm. Je leur ai dit, vous allez cadrer comme ci, comme ça, on va enregistrer tout ça, puis après on pourra le monter comme un film.
Now the problem with that is cutting tape.
Mais le problème, c'est que monter et couper de la bande magnétique, à l'époque, la bande vidéo, c'était très cher. Et la BBC ne nous permettait pas de faire plus de 2 ou 3 coupes. On le savait, on était des gamins, on s'est dit, mais bon Dieu, on va essayer quand même. Donc j'avais tout ce matériau. Et à la fin de la production, à la fin du tournage en studio, le chef du département a dit, mais c'est catastrophique, vous avez gâché tout cet argent, on ne peut pas l'utiliser, ça ne fonctionnera jamais, on ne peut pas le mettre à l'antenne. Et Ted et moi, on s'est dit, allez, on a une solution. Parce que pour chaque production en vidéo, il y avait une copie de secours en 16 mm film. La qualité était dégueulasse. Il y avait des rayures, mais on pouvait le voir quand même. On a dit, on était très méchants. On a dit, ah, on est désolé, c'est terrible, on n'a pas très bien compris ce qu'il fallait faire, on est vraiment désolé. Est-ce qu'on peut utiliser la copie 16
mm?
Et après beaucoup de discussions, on a utilisé la copie 16 mm et on a fait un film en 16 mm qui était avec les extérieurs et les studios. Et on a fait un film contre la politique de la BBC.
And from that, they then said, okay, you've been very wicked, but you can make a film.
Et à partir de là, ils ont dit, d'accord, vous avez été très méchant, mais vous pouvez faire votre film.
And then we made a film called Cathy Come Home, which is about homelessness, which became quite notorious.
Et on a fait ce film qui s'appelle Cathy Come Home, sur les SDF, qui est devenu très connu.
Alors après l'expérience Cathy Come Home, vous sortez votre premier long métrage, Pas de larmes pour Joy. Ce film raconte le quotidien d'une jeune mère de la banlieue londonienne dont le mari est en prison. Et Joy s'éprend de Dave, un voyou romantique. Est-ce qu'avec ce premier film, on peut déjà dire que le futur cinéma vérité de Ken Loach est en gestation?
C'est intéressant parce que Pas de larmes pour Joy est moins bon comme film que Cathy Come Home.
Et
j'ai fait tellement d'erreurs dans Pas de larmes pour Joy. J'ai appris beaucoup. C'est un mélange de styles quand on le regarde. J'ai pas bien fait. En fait, l'écriture est très bonne. J'aime bien la façon dont ça a été écrit.
Carol White.
Elle a très bien joué. C'est une fille de la classe ouvrière de Hammersmith à Londres. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a été très facilement attirée à la carrière de vedette de cinéma parce que les gens l'ont exploitée par la suite. Mais Cathy Come Home, il y avait une direction d'acteur très très fine et une histoire à raconter. Pas de larmes pour Joy, c'est un film plus complexe, plus compliqué. Je ne savais pas suffisamment bien ce que je faisais, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a un petit peu de caméra à l'épaule, un petit peu de 35 mm, un peu à l'épaule, un peu sur le tripod, sur le trépied. Mais j'en ai appris beaucoup. Et une des bonnes choses qui en est ressortie, c'est que l'assistant caméraman, c'est Chris Mangus. Beaucoup d'expérience en documentaire. Et on a décidé de travailler ensemble par la suite. Et c'est le film suivant qui a établi la façon dont on a travaillé par la suite.
Ken Loach, avec d'autres réalisateurs comme Stephen Frears, vous appartenez à une génération d'auteurs, réalisateurs britanniques, qui avaient su perpétuer d'abord pour la télévision à la BBC, puis ensuite au cinéma, la révolution artistique qui a été le free cinéma anglais des années 50. Est-ce que c'était l'équivalent français de la nouvelle vague?
Non.
What was called free cinema? Ce qui était appelé le free cinema, cinéma libre ou gratuit. On n'a jamais utilisé ce terme à l'époque. Et c'était certainement pas gratuit, je peux vous dire. Il fallait payer.
Et
ce n'était pas gratuit du tout. Il y avait des réalisateurs et des producteurs qui ont découvert le nord de l'Angleterre dans les années 60. Je peux vous dire que ça a toujours existé. Et ils ont fait toute une série de films comme Samedi soir, dimanche matin, La solitude du coureur de fond, The Kind of Loving, toute une série de films sur le nord et la classe ouvrière. Mais à l'époque, nous étions une génération qui avait 10 ans de moins, et on les a beaucoup critiqués. Avec le recul, bon, ils étaient très innovants, et leur réussite était de dire, voilà un endroit valable pour le cinéma, parce que jusqu'à ce moment-là, la classe ouvrière, le nord de l'Angleterre, les Midlands étaient ignorés comme s'ils n'existaient pas au cinéma. Et eux les ont mis sur la carte. Et on les a critiqués avec notre arrogance de jeunes. C'était de dire qu'ils avaient fait un ou deux films et puis ils sont partis aux États-Unis où ils sont revenus au théâtre du West End de Londres. Ils n'avaient aucun engagement envers cette classe sociale, au-delà de faire un ou deux films et puis de partir ailleurs ou d'aller à Hollywood ou de retourner à l'industrie du film commercial. Et notre attitude, c'était cette classe ouvrière industrielle mérite mieux qu'une simple visite d'un petit producteur ou d'un petit réalisateur d'Hollywood. Et donc, quelque chose qui reflète cette vie, qui reflète les conflits qui s'y produisaient. et les possibilités qu'avaient ces gens-là quand ils agissaient collectivement, et l'importance politique de la classe ouvrière. C'est devenu le centre de ce que nous voulions faire.
Il ne
s'agissait pas d'aller faire un ou deux films et d'aller ailleurs.
On est maintenant en 1969, quand sort Kes, votre second long métrage, et dont le lieu de tournage se situe au nord de l'Angleterre, au cœur de la classe ouvrière, des lieux de tournage qui ne quitteront plus votre cinéma.
Mais c'est là que je me sens chez moi.
La comédie,
les tristesses, les absurdités, les stupidités, les délices, l'amitié, la camaraderie, le sens de lutte commune. C'est là que nous avons choisi de travailler. Et quand je dis nous, c'est pas un nous de royauté, mais c'est parce que c'est véritablement quelque chose de, un travail commun que l'on fait avec le scénariste.
Outre-Manche, le film est plutôt bien accueilli. Il remporte deux BAFTA, l'équivalent français des Césars. Et votre première sélection cannoise à la Semaine de la Critique. Le début d'une longue histoire entre vos œuvres et le festival.
Cannes a une importance considérable pour nous. Un énorme soutien. J'ai un très grand respect et de l'affection pour le public de Cannes, pour les gens qui dirigent le festival, la chaleur, l'amitié que nous avons toujours reçue. Les gens ont été très généreux avec nous. Les gens ont des expériences très différentes de Cannes, vous savez. Nous descendions dans des hôtels près de la gare pour une poignée de francs à l'époque. Et c'est une expérience complètement différente d'être là et dans un des hôtels chics. Mais ça a toujours été un plaisir. Les gens ont toujours été amicaux. Ils nous ont reçus très chaleureusement et on les remercie. Les gens qu'on rencontre là-bas, je ne parle pas des gens très très importants, mais les gens qui font leur travail au quotidien. Et sans le public français, on n'aurait jamais eu cette carrière. Moi, je n'aurais certainement pas eu cette carrière parce que c'est ce qui a soutenu nos films. Et on aime à penser que c'est une tradition européenne dans laquelle nous travaillons. Certainement pas une tradition américaine. Oui, Cannes a été très très bien pour nous.
Kes, c'est aussi l'occasion d'approfondir les relations humaines, la complicité artistique avec le producteur de films Tony Garnett, mais surtout avec le chef opérateur Chris Menges, que vous aviez tous deux rencontrés à la BBC.
Oui, Tony et moi étions déjà de vieux camarades lorsqu'on l'a fait, mais c'est une extraordinaire expérience de faire un film ensemble. Beaucoup d'idées se sont cristallisées autour de ce film, Kes. Eh bien, tout d'abord, c'était la photographie. Et c'est venu d'une conversation avec Chris Menges, le caméraman, le directeur photo. Le point de départ, c'était notre plaisir commun à voir les films tchèques. Le néo-réaliste italien était très important. La nouvelle vague française est très importante, mais aussi le cinéma français plus ancien était très important. Mais les films qui m'ont vraiment touché plus que les autres, c'était les films tchèques, réalisés par Jiří Menzel, Miloš Forman et les autres réalisateurs en quelques années, dans les années 60. À l'époque où la société tchèque s'ouvrait et où il semblait qu'il pourrait y avoir un socialisme différent au sein de l'orbite russe. Bien entendu, tout ça s'est révélé être faux. Mais on regardait ces films et Chris avait travaillé avec un de leurs caméramans qui s'appelait Miroslav Andrichek, qui était le chef opérateur de ce film. Et Chris avait travaillé comme assistant de cet homme. Et il avait appris de Mirek. Et ça faisait partie aussi de l'expérience de Chris sur la façon dont devait fonctionner la caméra. On en a parlé. Et l'idée centrale, c'était que la caméra était un observateur sympathique. avec chaleur pour les gens. On ne les considère pas comme des objets, mais comme des êtres humains. On partage leurs sentiments, leurs angoisses, leurs problèmes, leurs difficultés. On est avec eux, on les comprend, on les lit. Et ça signifie qu'on utilise la lumière d'une certaine manière. La lumière doit être naturelle. On ne leur colle pas une mandarine en pleine figure, une lumière qui leur tombe droit sur la figure. Ce serait comme si on était dans un interrogatoire de police. L'utilisation de la lumière naturelle, sympathique, la position de la caméra, on est suffisamment éloigné d'eux. On n'inhibe pas la façon dont ils se comportent les uns avec les autres. Vous n'êtes pas intrusif, la technologie n'intervient pas. Elle est légèrement en retrait et les observe. Ça signifie qu'il faut sélectionner le type d'objectif qui correspond à l'œil humain. Parce que si vous avez un grand angle, personne ne regarde comme ça. Si vous avez un téléobjectif, personne ne voit les choses comme ça. Il fallait utiliser les mêmes objectifs que l'ouverture de l'œil. La position de la caméra, l'utilisation de la lumière, et puis ensuite le montage, et ne pas monter en avance pour que le public sache avant les acteurs ce qui va se passer, parce que ça implique que la scène n'est pas improvisée. Donc, on laisse les personnages vous prendre par surprise avant de monter. Par exemple, si nous sommes en train de parler et l'un d'entre nous interrompt l'autre, on ne monte pas, on ne fait pas une coupe vers la personne qui va prendre la parole, parce que sans ça, vous vendez en quelque sorte ce qui va se passer. Il faut faire comme si l'œil suivait. Donc, on attend que la personne prenne la parole, et puis, on monte et on montre la personne qui parle. Et cette façon de monter, c'était une façon de faire que la caméra était un observateur sympathique. Ça avait des implications pour le type de jeu, pour la lumière, pour la caméra, pour tout. Et pour le son aussi. Ça avait une implication sur tout. Mais ça commençait par la photographie. Et c'est de là que viennent toutes ces idées.
Alors, à la suite de Kes, vous allez réaliser deux autres longs métrages, en 1971, Family Life, et en 1979, Blackjack. En parallèle, vous continuez à travailler activement à la réalisation de séries télé. C'est le cas avec Days of Hope, une saga historique ambitieuse, dont le scénario se situe au début du siècle en Angleterre. À la production, vous retrouvez Tony Garnett, mais c'est surtout la rencontre avec le scénariste et écrivain Jim Allen, un ancien mineur, de 10 ans votre aîné.
Yes. Well, I mean, I worked with again Tony. It was a production that Tony Garnett.
J'ai travaillé avec Tony,
with a writer called Jim Allen,
avec Tony Garnett et moi, avec Jim Allen, un scénariste qui a une grande influence sur moi particulièrement.
Must repeat that I think the prime creative impulse.
En fait, la première impulsion vient du scénariste, pas du réalisateur. Lui, c'était quelqu'un de la classe ouvrière, c'était un militant politique. Oui, un ancien mineur. Il a travaillé sur les quais, il a travaillé dans le BTP. Il est passé par l'armée, comme nous tous. Et il a appris la politique sur la ligne de front, sur les quais, dans les puits, dans la mine. Lui et certains de ses amis ont lancé un journal pour les mineurs que l'on peut voir dans Land of Freedom, dans le film sur la guerre civile espagnole. C'est un des accessoires. J'ai beaucoup appris de lui. Il nous a présenté les tendances politiques auxquelles on a été confrontés. Il était très très drôle aussi. Lui, il traînait ses journaux dans un sac en plastique de supermarché. Quand il est arrivé à Cannes, il est venu donc avec ce sac en plastique et se promenait sur la croisette. J'ai dit, mais pourquoi tu te promènes avec ce sac en plastique? Bah, c'est léger, tu le jettes quand c'est déchiré. Et puis, quand est-ce que c'était? Ah oui, c'était Secret Défense qu'on a amené à Cannes. J'ai dit, Jim, quand on arrive à Cannes, tu vas avoir besoin d'un nœud papillon et d'une veste noire quand on sera sur le tapis rouge. Mais je n'ai pas ce truc-là. J'ai dit, Jim, il faut que tu en aies un. Et Jim a toujours acheté ses habits au pub. On mettait une petite annonce dans le pub et quelqu'un au pub, de façon mystérieuse, apportait ses vêtements, de façon malhonnête évidemment, mais on ne posait jamais de questions. Et donc Jim a mis dans le pub local cette petite annonce qu'il avait besoin d'une veste de smoking et d'un pantalon pour aller avec et d'un nœud papillon. Et donc ses amis ont obtenu le smoking. La veste allait très bien, mais le pantalon appartenait à un homme qui avait des jambes beaucoup plus courtes et il avait oublié les chaussures. Donc, il est allé sur le tapis rouge à l'horreur de Gilles Jacob, qui était trop poli pour faire un commentaire, avec un petit feu de plancher, 10 cm au-dessus des chevilles, qui flottait dans le vent, et une paire de baskets qui avait vu de meilleurs jours. Et il ressemblait donc à Mickey Mouse. Mais il s'en fichait, nous aussi on s'en fichait, et c'était Jim. C'était un grand scénariste. Il pouvait écrire des dialogues politiques avec la voix de personnages de la classe ouvrière comme personne d'autre. Bon, Paul Laverty, le scénariste avec lequel je travaille maintenant, est très doué. Il a beaucoup de choses que Jim n'avait pas. Mais Jim avait cette capacité d'écrire des dialogues extrêmement musclés. Et une chose que j'ai apprise de Jim, très importante, c'est que le langage est sous-évalué au cinéma. Les réalisateurs pensent toujours à l'image. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi la langue, la richesse de notre langue, l'imagerie dans la langue de la classe ouvrière, les métaphores, les jeux de mots, l'implicite. C'est immensément riche. Et tellement souvent, on voit des films où la langue est très légère, elle est sans poids, sans humour, sans élégance, sans rythme. C'est juste là pour que le plan fonctionne. Mais avec des écrivains, des scénaristes comme Jim et Paul, on en apprend sur la richesse du langage. Et c'est une partie essentielle du cinéma pour moi.
C'était une sorte de mentor pour vous ?
En ce qui concerne la façon de faire des films, ça venait plus de gens comme Chris Menges, Tony, de mon expérience du théâtre, beaucoup d'endroits, d'autres cinémas comme le cinéma tchèque, ça venait de là. Mais pour le contenu, la lutte politique, le respect pour la classe ouvrière organisée, pour la joie de la comédie, le respect des gens, oui, une grande partie est venue de Jim. Et l'amitié pour lui, sa famille, il avait toujours un gros chien. Et il savait que j'avais peur des chiens. Quand on était autour de la table pour parler du scénario, j'essayais de couper une scène, soudain, le chien apparaissait, commençait à renifler autour de mes mollets. J'ai dit, bon d'accord, ok, on arrêtait de parler du scénario que je voulais couper, et puis on passait à autre chose. C'était quelqu'un de grande force dans la comédie.
Alors, on est en mai 1979, et après plusieurs années d'administration travailliste, les conservateurs retrouvent le pouvoir avec leur chef de file, Margaret Thatcher. Est-ce que vous aviez vu venir ce qu'on a qualifié de révolution conservatrice ?
Oui. Disons que on l'a vu à l'époque, oui.
It's interesting. It endorsed
oui.
The Thatcher counter-revolution.
Ça a endossé la contre-révolution de toutes les idées que nous avions apprises dans les années 60. Et ces idées, de façon très simple, très très simple, caricaturalement, c'était que notre société, notre économie est basée sur un conflit fondamental. Les intérêts de la classe dirigeante qui bénéficie du système, et la classe ouvrière qui doit vendre son travail. Et l'intérêt de la classe ouvrière, c'est la sécurité de l'emploi, des salaires qui peuvent faire vivre une famille, un toit, l'éducation pour les enfants, une caisse maladie lorsque vous êtes malade, des retraites quand vous êtes vieux, la sécurité. Et l'intérêt de la classe dirigeante, c'est le profit. Ça doit être le profit. Parce que si leurs affaires ne font pas de profit, ils échouent. S'ils font du profit, d'autres gens vont investir dans leurs affaires, l'industrie va croître, ils feront plus de profit. Donc, c'est une dynamique constante. Ça doit toujours accroître les profits. Sans ça, les investisseurs iront ailleurs. Ils doivent défier leurs concurrents pour être plus grands, pour pouvoir les acquérir et devenir des multinationales. Et leurs profits baisseront s'ils ne défient pas la classe ouvrière pour l'amener à travailler pour eux. On commence avec la sécurité de l'emploi et des syndicats forts, et on termine par une classe ouvrière faible, avec peu de syndicats, passée par des agences, avec des CDD, et des emplois qu'on allume et qu'on éteint comme un interrupteur. Il y a deux jeux d'intérêts conflictuels.
You can have a nice boss who wants to do well.
On peut avoir un bon patron qui veut bien faire, mais il doit faire comme ses concurrents, sans ça il échoue. Donc la conséquence, ce conflit essentiel, on ne peut pas y échapper. Et ça, c'est le cœur de ce que nous voulons montrer dans nos films, le cœur de la société. On n'apprend pas simplement cela dans les livres, de parler aux gens, c'est prouvé par la lutte politique. Et quand Thatcher est arrivée, c'était leur intention, très clairement.
Merci Ken Loach.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Ken Loach. À voix nue. Traduction Michel Slotowski. Réalisation Marie Placet. Prise de son et mixage Frédéric Quéroux, Éric Boisset. Coordination Sandrine Trainer. Attaché de production Daphné Abgral. Voix Nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.